Oui, ce matin, je voudrais continuer avec vous la série de prédications sur la première lettre que Pierre a écrite aux chrétiens qui étaient en Asie mineure, la Turquie actuelle. Alors, j'ai mis « série » entre guillemets parce que la première prédication a eu lieu le 30 octobre 2016 et que nous avons fait deux versets. À cette époque-là. Donc, on continue cette série, mais ces deux versets quand même, les versets 1 et 2 du premier chapitre de la première épître de Pierre, contenaient une expression particulièrement riche, celle, vous vous souvenez peut-être, des hôtes de passage. « Vous êtes, dit Pierre aux chrétiens qui habitent l'Asie mineure et qui fait partie de l'Empire romain, vous êtes des hôtes de passage. En plus, vous êtes dispersés dans les provinces du pont de Galatie, de Cappadoce, etc. » Littéralement, vous êtes des résidents temporaires, vous êtes des pèlerins, vous êtes des étrangers dans votre propre pays. Et ils l'étaient, ces chrétiens d'Asie mineure, parce qu'ils étaient dans cet empire romain athée, où être chrétien était mal vu et mal considéré. En tout cas, être chrétien, ce n'était pas synonyme d'ascenseur social, plutôt de descendeur social. Mais ce statut de résident temporaire ou d'hôte de passage est celui de tous les chrétiens de toutes les générations et quel que soit le système politique dans lequel soit un système totalitariste ou une démocratie libérale. Chaque croyant, en fait, appartient à une autre cité, la cité d'en haut que l'on attend, comme Abraham qui voyait à l'avance cette cité et qui l'espérait. Dans cette cité-là, en attente, être un pèlerin, un résident temporaire, c'est notre statut à tous les chrétiens. Alors cela ne veut pas dire qu'on se désintéresse de ce qui se passe sur cette terre, non. Le chrétien qui appartient à cette cité céleste à venir, il s'active, il prépare déjà sur cette terre la venue de cette cité céleste. Il dit avec force et conviction cette prière du Notre Père, cette phrase du Notre Père, « Que ton règne vienne ». Mais il ajoute aussi que ta volonté soit faite sur cette terre et dans ma vie. Cela ne veut pas dire, ces pèlerins que nous sommes tous, que le pèlerinage non plus soit facile sur cette terre. Dans la dispersion, sous la pression de l'Empire, le chrétien de l'époque est bien dans la peine pour vivre sa foi. L'adversaire est de taille. Goliath a fait des petits qui dépassent largement le Père. Et il y a de quoi dans l'Empire romain, être intimidé. Et Pierre, vous le savez, le disciple capable du meilleur comme du pire, il veut encourager ces chrétiens dans la dispersion et ces résidents temporaires sous l'Empire romain. Il veut les encourager alors qu'ils vivent cette situation précaire et difficile. Il veut les encourager parce qu'ils pourraient perdre courage, dans le sens premier du mot « courage ». Ils pourraient perdre leur cœur. Ils pourraient perdre leur cœur dans ce pèlerinage de chrétiens de première génération et quand ce pèlerinage surtout s'apparente plutôt plus au parcours du combattant qu'à une promenade champêtre. Les épreuves pour les chrétiens de l'Empire romain sont nombreuses, trop nombreuses peut-être. Et Pierre va beaucoup parler d'épreuves dans cette lettre, de nuages, comme on l'a chanté tout à l'heure. Il va en parler parce que la situation le demande et aussi parce qu'il faut répondre à cette question que tout le monde se pose par rapport aux épreuves. Que faut-il en faire? Comment les intégrer dans notre pèlerinage? Et là, la question se posait avec beaucoup de force aux premiers chrétiens parce que d'abord, ces épreuves étaient nombreuses. Ensuite, peut-être parce qu'ils ne s'y attendaient pas ou qu'ils ne s'y attendaient peut-être pas. L'évangile qu'ils viennent de recevoir n'est-il pas la libération de toutes les entraves, la délivrance de toutes les pesanteurs de la vie, la guérison de toutes les maladies, la victoire sur toutes les attaques de l'adversaire? Et dans ce contexte d'attente, les épreuves laissent perplexes, laissent planer un doute sur même la pertinence de l'évangile. Le Christ lui-même n'a-t-il pas dit que nous aurions la vie abondante? Et pour l'instant, se disent les chrétiens d'Asie mineure, ce qu'il y a d'abondant, ce sont les épreuves. On nous a parlé, disent-ils, de la vie sous la grâce, mais la réalité de notre pèlerinage, de notre vie, n'y ressemble pas trop, à moins qu'on se soit trompé sur la définition de la grâce. Le problème des chrétiens d'Asie mineure n'est pas celui d'une attirance vers un autre évangile, comme pour l'église de Colosse ou les églises de Galatie, les lettres aux Galates, mais le problème, ou la question, c'est celle de la pertinence de l'évangile. Autrement dit, l'évangile résiste-t-il au test de l'épreuve ? Et quand survient l'épreuve, apparaît effectivement une sorte d'hésitation chez le chrétien, pas seulement une peur d'ailleurs qui est légitime face à l'épreuve, mais une remise en question un petit peu de ce que l'on croit, une remise en question, allez, osons le mot, théologique, au niveau de la foi. Et peut-être que cette remise en question vient rejoindre la nôtre ce matin. Alors à quoi s'attendait-il ? Alors, il est peu probable quand même qu'il s'attendait à une vie chrétienne sans douleur. Vous savez, aujourd'hui, on parle de l'évangile de prospérité, qui a beaucoup de succès en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, qui veut que si on est croyant et que si on obéit à Dieu, on sera béni, et financièrement. Et ça fait des ravages aujourd'hui. Parce que ça, c'est un pseudo-évangile. Mais à l'époque, il n'y a pas encore cet évangile de prospérité. Ils ont certainement été préparés aux épreuves, mais peut-être qu'ils ont été préparés aux épreuves en théorie seulement. Il leur paraît théoriquement possible de souffrir en tant que chrétien. Ils pouvaient accepter l'idée que la vie chrétienne pouvait comporter quelques difficultés, mais cela restait théorique. C'est une fois dans les épreuves, une fois dans les souffrances, que le doute s'installe sur la pertinence de l'évangile. Ce qu'ils étaient prêts à accepter en théorie devient difficilement tenable en pratique. Et nous avons tous des exemples d'épreuves qui nous laissent dans l'interrogation et qui nous posent question. Les parents d'Yvonne s'appellent Clément et Charlotte. Ils ont 80 et 82 ans. Ils sont depuis 60 ans missionnaires en Belgique. Et ils ont édité plusieurs livres, ils ont travaillé avec Alfred Kuhn. Et ils ont choisi de vivre très modestement dans une petite ville du Brabant wallon, avec un taux de chômage très élevé. Mais Charlotte et Clément ont un rayonnement absolument extraordinaire en Belgique. Il y a à peu près 200 personnes qui les appellent grandpa et grandma. Bon, ils ont 6 enfants. Mais il y a 200 personnes qui, sans être ses enfants ni ses petits-enfants, l'appellent grandpa et grandma. Ce sont des figures, des exemples de foi. Et je reçois un mail il y a 3 semaines, le 1er février, et c'est adressé à Yvonne, mais il se trompe d'adresse. Et donc c'est moi qui le reçois. Et dear Yvonne, et puis il lui souhaite bon anniversaire. Ben, c'est normal. Elle a eu son anniversaire le lendemain. Et puis elle cite un chant que nous chantons souvent ici. « Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Marchons en paix, suivant son pas. Recevons tout ce qu'il voudra et que sa main veut nous donner. » Et puis après, elle raconte toute la semaine. Jeudi, j'étais à la visite à la maternité pour voir le nouveau-né de Yann et Virginie. Vendredi. Hein. Et puis samedi, nous sommes allés à l'église de Wavre, où Luc Torini est pasteur. Et dimanche, je suis allé chercher Bargerim et enfant à Nivelles pour venir au culte. Le culte a lieu chez eux, c'est une église de maison. Ils reçoivent une trentaine de personnes tous les dimanches, à 80 et 82 ans. Et puis l'après-midi, ils écoutent Songs of Praise sur la BBC, et quelqu'un sonne à la porte. Et c'est un jeune homme qu'ils ne connaissent pas, et que Clément ne connaît pas, Grandpa ne connaît pas, donc il ouvre la porte, commence à discuter avec lui, et tout d'un coup, il y a deux autres gars, beaucoup plus grands, cagoulés, qui rentrent, et qui le passent à tabac sur le palier. Et Grandma est au salon, elle entend du bruit et des cris, et elle descend, et elle pousse des cris, et ils s'en vont. Il y a 6 mois, ils ont été cambriolés, alors qu'ils n'ont rien. Ils ont pris quand même le iPad que toute la famille avait offert à Clément pour ses 80 ans. Et là, chez eux, alors qu'il n'y a rien à voler, il se fait tabasser sur le pas de sa porte. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Il était où ? L'ange de l'Éternel. Et on se dit, comme cette figurine de dessin animé, c'est trop injuste. C'est trop injuste. Et devant ces interrogations et ces doutes possibles, Pierre, qui s'y connaît un peu en matière d'épreuves, veut encourager parce qu'il est en prison lui-même, parce qu'il sait combien la foi peut baisser, baisser jusqu'à foncer en eau profonde. Vous vous souvenez de l'épisode de la barque ? Il sait comme l'adversaire peut vous passer au crible, comme Jésus l'a dit à son sujet. C'est Jésus qui s'adresse à Simon-Pierre. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme le froment pour vous cribler. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, parce que la foi peut défaillir quand l'épreuve nous crible. » Il a connu des épreuves, Pierre, il les connaît encore, et il veut partager son expérience d'homme de foi. Pas d'un surhomme, mais d'un homme porté par la foi. Et il veut répondre à ces questions que laissent les épreuves. Ce doute par rapport à la grâce, par exemple, il va dire en fin de lettre, par Sylvain, son secrétaire, je vous ai écrit assez brièvement pour vous encourager et vous assurer que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Ils auraient pu en douter en voyant toutes les épreuves dans leur vie. Mais ils sont bien sous la véritable grâce de Dieu. Et les épreuves ne sont pas le signe que l'on est à côté de la bénédiction de Dieu, bien au contraire. Et Pierre continue ses encouragements. Et il commence très fort, je ne sais pas si vous l'avez noté tout à l'heure, il commence son paragraphe en disant « Loué soit le Seigneur, parce que dans son grand amour » voilà une belle entrée en matière, hein, on se rappelle « Loué », on est dans l'adoration, « recentré sur Dieu et son amour. Dans cet amour, il nous a régénérés. » Et donc voilà une salve d'encouragement. Premier encouragement, régénéré pour une espérance vivante. Et Florian nous a déjà parlé de cette régénération. Le deuxième volet de ce trésor de la grâce. Justification, régénération. Et on attend avec impatience le troisième volet, l'adoption, qui sera pour le 26 février, si je ne me trompe pas. Et donc, les trésors de la grâce de Dieu. Mais ici, Pierre parle un peu de la suite de cette nouvelle naissance, du berceau dans lequel on va mettre ce nouveau-né, à savoir l'espérance. Régénérée pour une espérance vivante. Alors quand on prend le mot « espérance » tout seul, ça pourrait paraître pour quelque chose d'un petit peu léger, un peu comme « espoir » dans l'expression « l'espoir fait vivre ». Une utopie que l'on caresse et qui nous permet d'échapper au quotidien, mais qui a peu de chances de se réaliser. Mais Pierre parle d'une espérance vivante, c'est-à-dire une espérance qui ne meurt pas ou qui ne déçoit pas, comme malheureusement beaucoup d'espoirs humains. Elle est vivante aussi parce qu'elle est centrée sur une personne qui est vivante, Jésus, le ressuscité, qui est vivant aujourd'hui. Il est lui-même notre espérance vivante. Et c'est parce que le tombeau a été trouvé vide que nous pouvons vivre de cette espérance. Nous avons été régénérés, non pas pour une religion morte et fade, non pas pour un rituel froid, mais pour une relation vivante et vivifiante avec le Dieu vivant et vrai. Waouh ! Je dirais encore un mot sur cette espérance, et c'est Samuel Benetro, en fait, qui va le dire, ce mot. Samuel Benetro, professeur de Nouveau Testament à la fac de Vaux-sur-Seine, il a 88 ans ou 89, sa femme est d'Orthez. Il est venu prêcher ici, il a écrit un commentaire sur un Pierre et il dit ceci, le mot « espérance » n'a pas ici le sens habituel qu'il a en français, c'est-à-dire un sens subjectif d'attente d'un bien envié, considéré comme accessible. Chez Pierre, l'espérance, c'est déjà l'entrée en jouissance d'un bien attendu et désiré. C'est déjà l'espérance, n'est pas quelque chose d'utopique, c'est déjà l'entrée en jouissance d'un bien attendu et désiré. Et pour mieux comprendre peut-être Samuel Benetro, on pourrait prendre l'image de la corde. En hébreu, le mot espérance se dit tikva, tikva. Et il veut dire aussi corde. Premier sens dans les dictionnaires, corde. Deuxième sens, espérance. C'est le mot tikva qui est dans Jérémie 29, 11. J'ai pour vous un projet de bonheur, non pas de malheur, mais un projet de bonheur pour vous donner un avenir fait de tikva, d'espérance. Qui veut dire corde aussi. Et avec une corde, on grimpe vers les sommets. La corde est en haut et on va grimper et on espère arriver en haut. Mais on a déjà le bout de la corde entre les mains. Cette espérance, corde, on l'a déjà entre les mains. L'espérance, selon Pierre, c'est profiter déjà maintenant de notre relation vivante avec Jésus-Christ. L'espérance est vivante, l'espérance est présente. Et puis, deuxième encourageant dans cette salve, un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi. J'ai rencontré un jour quelqu'un qui, dans un entretien, m'a dit « J'ai dilapidé l'argent de ma famille en 2 ans. » Et on sentait qu'il était un peu vantard. 2 ans, pouf. Un peu rebelle, là, tu sais, gars bizarre. Tant je sentais et on sentait que c'était pour lui un sentiment terrible d'avoir dilapidé. C'était un jeune père de famille, l'argent de sa famille en 2 ans. Et en même temps, c'est un petit peu le lot de tous les héritages familiaux. On ne le dilapide peut-être pas, mais on le dépense, on finit par le dépenser. Mais l'héritage que Dieu nous réserve dans la cité d'en haut ne peut pas perdre sa valeur en bourse, ne peut être dilapidé, ni même dépensé, ni même amoindri. Il demeure intact parce qu'il n'est pas soumis aux fluctuations boursières, ni lié au taux de croissance économique d'un pays. Cet héritage reste intact parce qu'il vient de Dieu, chez qui il n'y a aucun changement ni ombre de variation, dit Jacques. Et on ne peut trouver garantie plus solide que celle-là. Et derrière ces mots, il y a les notions, oui, de garantie, de fidélité, de solidité, de confiance. Je ne sais pas si c'est, si on l'a dit encore, tout passe, tout lasse, tout casse. Mais la parole de Dieu, cette promesse d'héritage, demeure éternellement. Et tous les résidents temporaires de France et de Navarre, et nous sommes en Navarre, ont besoin de réentendre cela. Voilà un peu la salve d'encouragement que Pierre envoie à ses chrétiens dans la dispersion. Mais restent les épreuves. Cette espérance vivante résiste-t-elle à l'épreuve des épreuves ? Et Pierre va en parler donc au verset 6, et il ne veut pas éluder la question, puisqu'elle est sensible, la question, autant pour lui que pour eux. Et il va commencer un peu bizarrement par un « même si, quoique, voilà ce qui fait votre joie, l'héritage intact et l'espérance vivante, même si, actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Un « même si » qui vient en quelque sorte faire le contraste avec l'espérance vivante et l'héritage incorruptible. Et les épreuves qui arrivent peuvent être comme une douche froide, ou perçues comme une douche froide, mais ce n'est pas le but de Pierre, c'est plutôt un appel à regarder ces épreuves à travers la fenêtre du salut, à travers la fenêtre de l'espérance vivante, de cet héritage incorruptible. Et Pierre, en quelque sorte, va remettre les choses en perspective. Les épreuves en perspective, et c'est extrêmement utile pour les chrétiens d'alors comme pour les chrétiens d'aujourd'hui, parce que dans la vie, on manque et je manque de perspective. Et je crois que c'est pour moi, j'y réfléchissais, le plus grand défi quand il y a une épreuve. Je m'aperçois que lorsque l'épreuve survient, je perds très très vite le projet de Dieu pour moi et pour le monde. Je pense que c'est humain, mais je me focalise sur l'épreuve et sur l'effet négatif qu'elle a sur moi. Et je rentre en moi-même, et j'évalue mes émotions, et j'observe mes sentiments, et je nourris ma rancœur, et j'oublie tout le reste. Et je sais que j'ai besoin d'ouvrir les fenêtres, les portes, les baies vitrées de ma petite maison intérieure sur cette espérance vivante, sur cet héritage incorruptible. Élargis l'espace de ta tente, dit le prophète Ésaïe. Allonge tes piquets, plante plus loin tes piquets, regarde plus loin, élargis tes perspectives. Et Pierre ouvre la focale, grand angle, sur la question des épreuves. Et dans un premier temps, il va dire 2 choses importantes. Dans un premier temps, il va nous dire, au verset 6, qu'elles sont temporaires. Même si, actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps. Quelle que soit l'intensité de ces épreuves, elles ne durent qu'un temps. Un peu de temps même, dit Pierre. Alors, un moustachu a dit que le temps était relatif, il s'appelait Einstein, et le temps des épreuves est aussi relatif. Et il faut le mettre peut-être, ce temps des épreuves, en relation avec une autre donnée temporelle, l'éternité. Le temps des épreuves est relativement court au regard de l'éternité dans laquelle nous sommes engagés si nous sommes chrétiens. Et cela permet justement donc de relativiser, mais en même temps, quand on est au cœur de l'épreuve, quand on est dans l'œil du cyclone, cet encouragement de Pierre que les épreuves sont temporaires ne semble pas porter très loin. Dans l'épreuve, on a envie de dire, comme le prophète Habacuc, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ça va durer ? Parce que, et nous pouvons le dire, parce que nous sommes dans ce temps présent et que l'épreuve nous semble longue. Jusqu'à quand ? Dit Habacuc et nous avec lui. Et heureusement que ce questionnement d'Habacuc est dans la Bible comme une parole humaine que Dieu entend, que Dieu reçoit. Heureusement qu'elle est là pour qu'on puisse la dire à notre tour quand on est au cœur de l'épreuve. Jusqu'à quand cela va-t-il durer ? Et le dire à Dieu, c'est déjà mettre son espérance en lui. Le dire à Dieu, c'est déjà placer sa confiance. Et recevoir de lui cette réponse que Dieu, le maître du temps, va mettre un terme à ses épreuves, à ses souffrances. C'est cette espérance vivante dans laquelle nous voulons vivre et qui nous fait vivre. Et la deuxième chose que Pierre dit au sujet de ces épreuves, c'est qu'elles nous sont utiles. Ou plus exactement, qu'elles sont utiles à notre foi, qu'elles servent à éprouver la valeur de notre foi. Alors, il faut être clair que les épreuves ne sont jamais voulues ou envoyées par Dieu. Jacques, l'apôtre Jacques, le dit lui-même, premier chapitre de Jacques, Dieu ne tente personne. Mais Dieu les utilise pour avoir une action sur notre foi, pour purifier notre foi, pour affiner notre foi. Et Pierre va utiliser l'image de l'or que l'on purifiait à l'époque en le passant au creuset. On fait chauffer l'or dans un creuset avec un creux, on met l'or dedans, il se liquifie et il paraît qu'à haute température, j'ai jamais vu l'histoire, mais les imperfections, les scories comme on appelle, de l'or remontent à la surface et avec un instrument, pas avec la main je suppose, l'artisan enlève ces scories et l'or est purifié. Et l'image ne nous parle peut-être pas beaucoup, mais derrière cette image, il y a tout le travail que Dieu veut faire en nous au travers des épreuves. Dieu est cet artisan qui travaille son œuvre, ce potier qui façonne l'argile, cet éducateur qui cherche à éduquer, ce pédagogue qui enseigne et qui corrige parfois pour le bien de son élève. Dieu est tout cela à la fois. Et dans sa pédagogie, dans son éducation, dans son travail d'artisan, il utilise les épreuves. Et il le fait pour notre croissance spirituelle, pour notre maturité spirituelle, pour devenir de plus en plus à l'image de son Fils, Jésus. Je continue le mail de Grandpa et Grandma. Et elle, sans crier gare, elle dit, après, il est allé à l'hôpital, etc. Nous remercions Dieu de nous avoir gardés et nous avons eu des bénédictions à la suite de tout cela. Ça s'est su et quelqu'un, un ami des enfants de Grandpa et Grandma, des frères d'Yvonne, et qu'il n'avait pas vu depuis 20 ans, Ahmed Bougada est depuis maintenant éducateur dans le quartier. Il est venu les voir et ils ont parlé ensemble. Et Grandma a écrit qu'ils étaient tellement contents de pouvoir lui parler de l'Évangile. J'ai expliqué à Ahmed le travail du groupe Jeunesse et Vie et Grandpa a parlé aussi de la vie nouvelle que seul Dieu peut donner. Et puis après, elle dit, je suis allé voir ma petite fille avec son bébé, et puis la vie continue. Et puis elle termine. Le Seigneur nous donne sa paix dans ces circonstances. Nous gardons les yeux fixés sur lui et nous demandons qu'il utilise tout cela, car tout concourt au bien. Nous sommes convaincus. Et puis elle continue le chant en disant que j'ai remplacé quelques mots à la fin de ce chant. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre. Je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui nous délivre. Et c'est là les mots qu'elle a ajoutés, du mal et du danger. Alors quand on est au cœur de l'épreuve, on a bien du mal à se dire que Dieu est en train de faire son œuvre. Et notre premier réflexe est bien souvent de nous replier sur nous-mêmes et de tomber dans l'amertume, la révolte, l'auto-justification, la plainte, le désir de vengeance. Et ce sont des réactions normales, qui sont parfois même tout à fait saines, comme la colère, par exemple, après une épreuve, après un mal qui vous a été fait. Il est bon d'avoir de la colère, mais ces émotions, ces sentiments doivent être temporaires et mener à un renouvellement de notre confiance en celui qui sait ce qu'il fait, de celui qui a commencé en nous son bel ouvrage et qui va le poursuivre jusqu'à l'achèvement, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et je cite Paul aux Philippiens, pour ceux qui savent, mais cela rejoint Pierre qui dit au verset 7, « Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable et la foi qui a résisté à l'épreuve, elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. » Et Pierre nous dit, en fait, que l'or, on s'en fiche pas mal. On parle de votre foi qui est le bien le plus précieux. Eh bien, cette foi éprouvée et épurée par les épreuves va être un sujet de louange, de gloire et d'honneur quand Jésus-Christ apparaîtra une seconde fois pour nous prendre avec lui à la fin des temps. Et on se rappelle que Pierre, inspiré par l'Esprit du Christ, dit cela à des résidents temporaires qui sont à la peine dans cet empire qui les écrase. Il parle à des hommes et des femmes dispersés qui sont quantité négligeable et qui subissent la pression d'un monde hostile et indifférent. Pierre leur parle de triomphe, non pas derrière le char du vainqueur, mais dans le char du vainqueur, avec Christ, en célébrant sa gloire avec une foi éprouvée qui, d'une façon assez mystérieuse, sert à glorifier Dieu. Et il leur parle aussi de la joie. La joie de voir Christ et de le voir pour partager avec lui notre foi éprouvée. Au contraire, et il le dit un peu plus loin, au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances du Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Et vous remarquerez qu'il est question de deux joies dans cette parole. Une joie maintenant, réjouissez-vous, et une joie plus tard, quand il paraîtra dans toute sa gloire. Et il semble qu'il y ait un lien entre ces deux joies, que cette joie d'être avec Dieu provoque ou sous-tend notre joie d'aujourd'hui malgré les épreuves. Elles sont en quelque sorte un prolongement l'une de l'autre. C'est une joie en espérance, mais dans le sens de Bénétro, l'entrée en jouissance maintenant de cette joie. Ou dans le sens de l'accord d'une joie bien ancrée en hauteur, mais dont on a déjà le bout dans les mains. Je conclus. Joie et épreuve ne font pas une paire naturelle, il faut en convenir. Et on pourrait, à la limite, les placer, joie et épreuve, dans une séquence temporelle. D'abord épreuve, ensuite, éventuellement, et finalement, la joie, quand ce sera fini, là-haut, dans le ciel, ou dans cette nouvelle cité que nous attendons. Mais Pierre nous invite à les faire coexister, aujourd'hui et maintenant. Mais si les souffrances ont effectivement une fin, même si la joie ne sera complète et parfaite que lorsque Jésus reviendra, il nous rappelle la possibilité unique de la foi en Christ, être joyeux dans les épreuves. Et Pierre veut nous encourager à l'être et il nous donne en quelque sorte un kit de survie pour tenir ferme et garder la joie dans l'épreuve. Première action dans ce kit de survie, plonger les regards comme le font les anges au verset 13, je crois. Plonger les regards dans le trésor du salut, dans cette espérance vivante, dans cet héritage qui ne dévalue pas. Adopter une nouvelle perspective sur les épreuves elles-mêmes, une perspective qui serait plus saine, plus ouverte, plus large, plus positive, pour comprendre qu'elles nous servent à progresser dans la foi. Et enfin, garder en vue ce jour ultime du triomphe de Dieu, où je serai participant de cette gloire, avec ma foi éprouvée. Voilà le kit de survie. Que ces vérités de la parole nous accompagnent dans notre pèlerinage sur cette terre alors que nous sommes dans l'épreuve ou pas. Amen.